profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires. Bonsoir, bonsoir. Baissez l'intensité de votre lumière intérieure de votre appartement et laissez-vous aller. Voici le programme. L'homme qui parlait au yaourt. Si, si, c'est tout à fait sérieux. Puis l'extraordinaire existence de Maître Philippe, le thaumaturge de Lyon. Et bien sûr, notre sélection musicale. L'homme qui parlait au yaourt. Si, si. En couverture du magazine Esquire, daté de juillet 1976, on pouvait lire « Un scientifique affirme que le yaourt se parle à lui-même. » Et dans le corps de l'article, revoici l'ineffable Clive Baxter, cet expert en détecteur de mensonges, qui mit en évidence la communication à distance entre les hommes et les plantes vertes. Alors, quel rapport avec le yaourt ? Ben le même. Un processus de perception primaire équivalent à la mise en situation psychologique chez les humains, mais à un niveau bactérien. Tout commence par un coup de feu. Ayant travaillé une bonne partie de la nuit dans son laboratoire sur la réactivité des plantes face aux émotions humaines, Clive Baxter eut un petit creux et sortit de son réfrigérateur un yaourt à la fraise qu'il commença à remuer pour faire remonter la confiture à la surface. Relié à un générateur audio, la plante voisine manifesta aussitôt une réaction électrique. Étonné, Baxter refit l'expérience. Avec un autre pot, et il obtint le même résultat. Qu'avait perçu la plante ? Selon toute apparence, un signal émis par Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus, les deux types de bactéries vivantes présentes dans le yaourt, au moment où le sucre de la confiture s'était mêlé à leur milieu naturel. Alléché par cette perspective, Baxter se mit alors à développer une méthode permettant d'enregistrer l'activité électrique du yaourt placé dans une éprouvette stérilisée. Les premiers résultats furent très impressionnants, pour ne pas dire catastrophiques. Une intense agitation émanait du dérivé laitier, puis le signal s'interrompait soudain. Le tracé de l'électroencéphalographe demeurait plat. Plus aucun signe de vie. Baxter assistait à une véritable hécatombe. Comme un suicide bactérien. Il finit par découvrir que c'était lui l'assassin. En effet, les électrodes à fil d'argent de son encéphalographe, en contact avec l'humidité yaourtière, se couvraient rapidement d'un dépôt de chlorure d'argent hautement bactéricide. Il les remplaça par des électrodes à fil d'or, et ces mesures purent dépasser le court terme. Et que lui disait le yaourt ? Des choses comme « j'ai faim ». Par exemple, il enregistrait des tracés significatifs provenant d'un yaourt placé sous électrode, au moment même où il donnait des nutriments à un autre échantillon qui, lui, n'était pas connecté à l'encéphalographe. Tous deux provenaient du même pot, mais ils étaient situés à 3 mètres l'un de l'autre. C'est comme si l'échantillon sous électrode s'attendait lui aussi à être nourri. Il est à noter qu'un résultat similaire fut observé sur le yaourt A en arrosant le yaourt B avec de la vodka. Ça, sans me pesantir sur les tendances alcooliques des bactéries laitières, Baxter se mit à étudier le rapport à l'homme. Elles paraissent entrer en forte résonance avec toute interaction humaine dans leur environnement immédiat. Il semble même que l'imagerie en lien avec notre activité mentale engendre des réactions juste avant que les mots associés soient prononcés. On songe aux travaux du docteur Masuro Emoto au Japon, après avoir mesuré le dépérissement d'un bol de riz qu'on insultait quotidiennement à l'intérieur d'un bocal d'eau par rapport au bocal voisin que l'on complimentait. Il découvrit que la seule irruption de l'insulteur à proximité du bocal injurié provoquait une réaction de l'eau, avant même que l'insulte eût été proférée. Baxter, quant à lui, fit bien d'autres observations renversantes. Imité et parfois même dépassé par les étudiants qu'il formait, galvanisé au vu des résultats obtenus lors des expériences les plus démentes. Ainsi, une stagiaire en biologie suggéra un jour d'amener un yaourt avec elle en hélicoptère. La raison de ce baptême de l'air ? Elle avait si peur dans les airs que les réactions d'empathie bactérienne, disait-elle, seraient sûrement gigantesques. À peine avait-elle exprimé sa phobie aérienne que le yaourt aux fraises sous électrode à côté d'elle afficha sur l'écran le tracé d'une perturbation extrême. Lorsqu'il communiqua ses travaux à l'American Association for the Advancement of Science en 1975, Baxter obtint chez les scientifiques des réactions proches de l'encéphalogramme plat. Vous imaginez. Lourd silence, regard qui se dérobe, et parlons d'autre chose. Enterrement de première classe. En revanche, il s'attira les foudres des fabricants de yaourts qui s'efforcèrent de le réduire au silence. Ils voulaient éviter, écrit-il, que leurs clients ne prennent conscience du fait qu'ils mangeaient des bactéries vivantes, même si c'était vrai. Les tentatives d'intimidation ne l'empêchèrent pas de faire connaître ses fabuleux résultats. Mais interdit de yaourt, il en fut réduit à communiquer sur des globules blancs, du sperme et du beefsteak congelé. Affaire à suivre. Petite pause musicale avec Jenny Joplin. Rise up singing. Bonsoir, bonsoir, c'est bien Marek sur CFM Radio 90.2, vous écoutez au plus profond des ondes. Deuxième histoire que je vous raconterai en deux parties, la vie extraordinaire de Maître Philippe, le thaumaturge de Lyon. Le 25 novembre 1904, paraît un article pour le moins curieux dans le journal de Gilles Blas. Nous en reproduisons ci-après un extrait. Il y a en France un homme qui est à la fois médecin, condamné pour exercice illégal de la médecine, général, capitaine des pompiers, ami d'un grand souverain, désintéressé comme un apôtre, admiré et adoré de la moitié de ses concitoyens, honni et vilipendé par l'autre moitié, suivi comme un saint par ses malades et ses disciples et filé comme un malfaiteur par la police. Je ne vous étonnerai pas en vous disant qu'un tel homme est sorcier. Il s'appelle Philippe et habite Lyon. Depuis quelque temps, on s'occupe beaucoup de lui. De grands organes très graves lui ont consacré de longs articles et sa réputation, après s'être répandue jusqu'en Russie, a fini par pénétrer jusqu'à Paris. Fin de citation. L'homme que l'on décrit ainsi, et qui est malheureusement tombé dans l'oubli pour nombre de nos concitoyens, était sans doute l'être le plus extraordinaire que le monde ait connu après Jésus-Christ. Ouais, nous pesons bien les mots. Ayant vécu durant la deuxième moitié du XIXe siècle et au tout début du XXe siècle, ses contemporains auraient pu le croiser dans la rue sans même l'apercevoir, tant son allure de petit bourgeois le rendait anodin. De taille moyenne, les cheveux noirs, présentant quelques embonpoints, rien ne le distinguait du commun des mortels, si ce n'est son regard, à la fois rempli d'amour et capable de vous traverser jusqu'au plus profond de votre âme. Nous le savons, ses yeux étaient d'un brun relativement clair, parsemé de paillettes d'or. Cependant, plusieurs personnes furent témoins d'un changement de couleur, le marron des yeux virant au bleu le plus pur. C'est d'ailleurs ainsi qu'il se présenta devant Manovilov, le policier russe chargé de le recevoir à Compiègne, juste avant son entrevue avec le tsar et la tsarine. Voici la description que Manovilov nous fait du maître. « Je vis entrer un gros bonhomme, avec une grosse moustache, habillé de noir, l'air modeste et sérieux, l'air d'un instituteur endimanché. Son costume était aussi ordinaire que possible, mais d'une impeccable propreté. » Il n'y avait de remarquable en lui que ses yeux. Deux yeux bleus, à demi cachés par de lourdes paupières, mais qui avaient par instant un éclat et une douceur étranges. Le bonhomme en question, véritable prodige que seuls ses yeux trahissaient, était en fait aussi bien capable de guérir son prochain, de commander aux éléments que de ressusciter les morts. Ah oui, vous avez bien entendu. Et voici son histoire toute empreinte de merveilleux, mais rigoureusement authentique, selon les témoins. Fils d'agriculteur peu fortuné, fils de Joseph et de Marie Philippe, Nisier Antelme Philippe naquit donc le mercredi 25 avril 1849 dans une très modeste maison du hameau des Rubatiers, commune de Loisieux, en Savoie. Lors de l'accouchement, on raconte que sa mère ne ressentit aucune douleur et qu'elle alla même jusqu'à pousser la chansonnette. Auparavant, elle s'était rendue chez le célèbre curé d'Ars, qui, faisant preuve de clairvoyance, lui aurait annoncé que l'enfant qu'elle attendait serait un garçon, un être très élevé, au pouvoir non moins étendu. Pendant la nuit de sa venue au monde, un terrible orage secoua les environs, au point d'en effrayer les habitants. Mais à 3 heures du matin, heure de la délivrance, la tempête se calma tout à fait pour laisser apparaître dans le ciel une étoile d'une brillance extraordinaire. La même étoile se montra lors du baptême du petit Nizier, ce qui ne manqua pas de troubler le curé chargé de la cérémonie. Le 31 mai 1862, lors de la première communion de Nizier-Philippe, un autre phénomène se produisit dans l'église de Loisieux, l'apparition d'une boule de feu au moment de l'Eucharistie. Durant sa prime enfance, le jeune Nizier, tout juste âgé de 5 ans, fit déjà montre de dons particuliers. Envoyé garder les moutons dans la montagne, il traçait à l'aide d'un bâton un cercle invisible autour des bêtes que ces dernières n'osaient franchir. Ainsi, aucune brebis ne manquait à l'appel. Plus tard, à l'âge de 10 ans, il sauva à distance la vie de son père qui était alors engagé dans la campagne d'Italie. Il lui fit tourner la tête à l'instant même où un boulet allait l'emporter. Encore enfant, ses camarades avaient remarqué que leurs maux de tête s'évanouissaient lorsqu'ils s'approchaient de lui. Inutile de préciser qu'à l'intérieur de la classe, on se disputait la place assise à côté de Nizier. À l'école, son instituteur était quelque peu dérouté par les incroyables facultés du fils Philippe, qui répondait aux questions avant même qu'elles ne soient posées. Toujours est-il que l'élève surdoué qu'il était ne pouvait décemment pas reprendre l'exploitation familiale. Aussi fut-il décidé de l'envoyer poursuivre ses études à Lyon. Ses parents, accablés par la pauvreté, ne pouvant lui payer une instruction de qualité, une solution fut néanmoins trouvée en la personne de son oncle, boucher établi dans l'ancienne Lugdunum, et ce dernier pourvoirait aux besoins de Nizier, et en échange, il lui demanderait de l'aider dans son travail, en effectuant notamment les livraisons chez les clients. À l'âge de 14 ans, Nizier quitta donc le petit village d'Érubatier pour se rendre à pied et dans le plus grand dénuement jusqu'à la préfecture du Rhône. Une fois installé, il suivit l'enseignement des pères de l'institution Sainte-Barbe. Très vite remarqué pour sa vive intelligence, c'est sans aucune difficulté qu'il obtint le certificat de grand-mère, un diplôme qui à l'époque lui ouvrait les portes des études supérieures, dont celle de médecine. Au mois de novembre 1874, Maître Philippe entrait à la faculté de médecine de Lyon, ce qui lui permit de fréquenter divers services de l'Hôtel-Dieu, y compris la salle Saint-Roch où allaient se produire plusieurs guérisons miraculeuses. Par exemple, un jour, s'arrêtant devant un malade, en pleurs, ce dernier lui confia qu'on devait l'amputer d'une jambe le lendemain. Maître Philippe lui promit que l'opération n'aurait pas lieu, mais lui demanda de garder le silence à ce sujet. Le jour suivant, le chirurgien venu voir son patient constata avec stupeur que la jambe était pratiquement guérie. S'informant auprès du malade sur ce qui s'était passé, celui-ci répondit « C'est ce petit monsieur Brun qui m'a vu », tout en désignant Maître Philippe du doigt. Quelque temps après, Maître Philippe s'approcha du lit de 3 soldats atteints de la fièvre typhoïde et que l'on considérait comme définitivement perdus. Il leur prédit leur guérison et leur annonça qu'ils seraient envoyés à Longchêne pour y passer leur convalescence. Le lendemain, autre surprise de taille pour les médecins qui ne purent que constater l'incroyable amélioration des 3 malades aussitôt transférés à Longchêne, où ils achevèrent de recouvrer la santé. Lorsqu'on apprit que l'étudiant Philippe était encore passé par là, cela déclencha la colère du corps médical, notamment celle de l'interne Albert, qui demanda auprès du professeur Bénédicte Tessier le renvoi de ce trublion de Philippe. Au mois de juillet 1875, sa 5e inscription d'officier de santé à la faculté de médecine fut donc refusée à Maître Philippe, au motif qu'il faisait de la médecine occulte et se comportait comme un véritable charlatan. Ce qui n'empêcha pas Maître Philippe de continuer à soulager les souffrances humaines, et ce de la manière la plus désintéressée qu'il soit. Il ne demandait aucun argent pour prix de ses services. C'est d'ailleurs lors d'une de ses nombreuses consultations gratuites qu'il fit la connaissance de sa future épouse, Jeanne-Julie Landard. Cette dernière, fille d'un riche industriel lyonnais, n'avait plus rien à attendre de la médecine traditionnelle et l'espoir de la sauver s'évanouissait chaque jour un peu plus. Cependant, en lui rendant la santé, Maître Philippe fit une nouvelle fois mentir les tenants de la science d'Hippocrate. Tombé amoureux de sa patiente, Maître Philippe ne tarda pas à aller demander sa main qu'on ne put lui refuser. Le mariage eut lieu le 6 octobre 1877 à la mairie en l'église de l'Arbrelle. Dans sa corbeille de mariée, Jeanne-Julie Landard apportait à son époux une fortune considérable, dont plusieurs maisons, sans oublier le fameux clos Landard, une magnifique propriété située sur les hauteurs de l'Arbrelle. Si Maître Philippe profita du confort de ses demeures, il ne fit aucune utilisation personnelle de cet argent tombé du ciel, préférant le consacrer à des causes beaucoup plus nobles, comme nous le verrons plus loin. De son union avec Mademoiselle Landard naquirent bientôt deux enfants, Victoire, née le 11 novembre 1878, et Albert, né deux ans plus tard. Le fils de Maître Philippe ne vécut malheureusement pas très longtemps, quittant ce bas monde à l'âge de 3 mois, emporté par une épidémie de petite vérole alors que son père se trouvait en Tunisie. En effet, Maître Philippe, dont la réputation avait déjà traversé nos frontières, avait été appelé auprès du bey de Tunis qui souffrait d'une terrible maladie. Arrivé au chevet du bey, Maître Philippe le soulagea aussitôt de ses terribles douleurs, mais l'avertit qu'il ne vivrait pas plus de 18 mois. Sa souffrance l'ayant complètement abandonné, le bey, plein de gratitude envers le maître, et sachant que ce dernier refuserait tout argent, le récompensa néanmoins en le décorant le 24 février 1881 de l'ordre de Nicam Iftikhar. De retour à Lyon, Maître Philippe poursuivit inlassablement son œuvre de guérisseur. Face au nombre de patients en perpétuelle augmentation, le maître vint s'établir en 1885 au 35 rue Tête d'Or, dans un petit hôtel particulier, de plusieurs étages dont la façade donnait sur un jardinet clos de murs. C'est dans une grande salle du premier étage, équipée de longs bancs, pouvant accueillir jusqu'à 80 personnes, que Maître Philippe donnait ses consultations, ou plutôt réalisait ses séances. En ce lieu, on vit se multiplier les guérisons les plus spectaculaires, la plupart confinant au miracle. Chaque fois qu'un malade recouvrait la santé ou qu'un paralytique se remettait à marcher, le maître disait que ce n'était pas lui qui guérissait, mais Dieu ou son ami, Jésus-Christ, auquel il pouvait tout demander. Aux personnes venues le consulter, il ne demandait qu'une seule chose, ne plus dire du mal de leur prochain. Parmi toutes les guérisons effectuées par Maître Philippe, certaines sont restées dans les mémoires par leur côté exceptionnel. Nous en rappellerons ici quelques-unes, qui relèvent d'ailleurs de l'impossibilité physique, mais qui furent pourtant constatées par des dizaines de témoins, voire des médecins. Le 21 mai 1897, une petite fille âgée de 10 ans est montrée au maître. Sa mère explique qu'il lui était impossible de tenir debout sur ses jambes à cause d'une importante déviation de sa colonne vertébrale. Réduite à se traîner sur le sol, sa fille est dans cet état depuis 7 ans et la médecine vient officiellement de l'abandonner. Maître Philippe demande alors à la mère si elle est prête à payer le prix qu'on va lui réclamer. Pensant qu'il va exiger d'elle une forte somme d'argent, la mère, qui n'est point riche, éclate en sanglots. « Ce n'est pas une fortune matérielle que je demande, précise Maître Philippe, mais seulement la promesse de ne jamais médire de personne jusqu'à ce que votre fille ait 20 ans. Le promettez-vous ?» Ayant immédiatement acquiescé à cette requête, la mère remarque un brusque changement dans l'aspect physique de sa fille. À partir de ce moment, Maître Philippe encourage la fillette à se relever, sans céder de l'appui d'un banc. Après quelques hésitations, la petite fille se redresse devant une assemblée au comble de l'émotion. Un autre jour, autre exemple, une Italienne se présente au 35 rue Tête d'Or avec ses deux enfants. Un de ses fils qu'elle porte dans ses bras est dans l'incapacité de marcher à cause d'une jambe plus courte de 10 cm. Ayant pris à son tour l'enfant dans ses bras, Maître Philippe le repose sur le sol tout en demandant à sa mère de l'appeler. Cette dernière, s'exécutant à l'instant, tend les bras à son fils qui se dirige vers elle. Au fur et à mesure que l'enfant avance, on peut voir sa jambe atrophiée grandir au point de devenir semblable à l'autre, selon les témoins. Lors d'une énième séance, une pauvre femme du peuple amène un enfant rachitique âgé de 18 mois. Lui aussi dans l'impossibilité de tenir sur ses jambes. 12 témoins présents, dont 2 médecins, s'aperçoivent que les tibias du pauvre enfant ont subi une déformation en arc de cercle. S'approchant de la femme, Maître Philippe dit « Comme cette femme est très riche, comprendre ici d'une richesse spirituelle, nous allons demander à Dieu la guérison de son enfant. » 10 secondes plus tard, les tibias de l'enfant se redressaient jusqu'à lui permettre de tenir debout. Pas plus tard que le lendemain, une autre mère de famille, affichant une grande aisance matérielle, vient demander au maître de sauver sa petite fille âgée de 10 mois, affligée d'une bronchite tuberculeuse compliquée de tuberculose intestinale. Les médecins ayant décrété qu'il ne restait plus que quelques jours à vivre à cette pauvre enfant, sa mère, au désespoir, a fait le choix d'une ultime tentative, celle d'aller consulter Maître Philippe à la réputation grandissante. À la vue de cette dame du monde, le maître lui adresse ces mots. « Madame, vous n'êtes pas assez riche pour nous payer. Vous pouvez avoir de la richesse matérielle, mais vous dites tant de mal des uns et des autres, et vous avez si peu partagé votre avoir avec les pauvres, que vous n'avez que bien peu de cette monnaie d'épreuves, de souffrance et de dévouement, la seule que le ciel connaisse, la seule que, dans son insigne faveur, il nous est autorisé, bien que nous en soyons indignes à escompter. La monnaie de César n'a pas cours ici. Seule la monnaie du Christ y est respectée. Et cependant, vous venez à nous pour que le ciel guérisse votre enfant. Eh bien, nous allons demander aux personnes ici présentes de se cotiser pour guérir votre enfant. Mesdames, messieurs, voulez-vous que cet enfant soit guéri ? Après avoir reçu une réponse affirmative de l'assistance, alors promettez-moi tous de ne pas dire de mal de votre prochain, hors de sa présence, pendant 3 jours. Est-ce promis ? Autre oui, unanime. Puis s'adressant de nouveau à la mère, « Madame, me promettez-vous et faites attention que la vie de votre enfant en dépend de ne plus calomnier vos amis. Oh, je le promets de tout mon cœur et pour toujours. » Je vous demande seulement 3 mois d'effort. Allez, votre enfant est guéri. Et effectivement, la petite fille repartit, guérie. Bien plus tard, alors que le tsar Nicolas II avait demandé au gouvernement français d'accorder le diplôme de médecin à son ami Maître Philippe, une enquête fut diligentée par le thaumaturge lyonnais et le professeur Brouardel fut envoyé dans la capitale du Rhône. Lors d'une séance à laquelle ce dernier assista, au 35 rue Tête d'Or, se trouvait une femme souffrant atrocement que l'on était obligé de soutenir. Maître Philippe invita le professeur à examiner cette patiente dans une pièce voisine. Le diagnostic de Brouardel fut sans appel. La malheureuse était atteinte d'hydropysie au dernier degré et selon lui, il ne lui restait que quelques heures à vivre. Ramenée dans la salle de séance, la mourante reçut un ordre du maître, celui de marcher. À sa réponse qu'elle ne pouvait faire le moindre mouvement, le maître ne lui dit qu'un seul mot. « Viens ». C'est alors que l'on vit cette femme faire péniblement quelques pas. Quelques secondes plus tard, elle marchait normalement et son enflure monstrueuse avait totalement disparu. Folle de joie, elle se mit à danser devant une assistance médusée. Le professeur l'examina de nouveau et ne put que constater la guérison totale. Il dit alors au maître Philippe « Ce qui vient de se passer est inexplicable par les lois scientifiques actuellement connues. Je ne puis que m'incliner. » Après avoir salué bien bas le maître, Brouardel se retira, songeant sans doute avec embarras au compte rendu qu'il serait amené à établir. Et pour ceux qui seraient encore incrédules face à ces témoignages parvenus jusqu'à nous, nous leur présentons ce rapport établi par un policier lyonnais à la date du 15 janvier 1903. Vous savez que les policiers n'ont pas réputation de coucher par écrit des balivernes. Voici la note. « Ce soir, je suis allé à mon poste chez Philippe. Néanmoins, j'ai été immédiatement reçu par un « Ah, gredin de voilà, assieds-toi ». J'ai assisté à la séance Le Malade, d'hier y était heureux comme un roi. Il a donné 100 francs que Philippe ne voulait pas accepter, mais que néanmoins il a mis dans sa poche en disant que ce serait pour les malheureux. J'ai vu encore deux cas surprenants. Celui d'un homme âgé venant de Montpellier, atteint d'une ankylose de la hanche, parti complètement guéri et ne ressentant aucune gêne ni douleur. Et le cas d'une vieille baronne qui, depuis 3 ans, marchait avec des béquilles. Philippe l'a fait marcher au pas, au trot, au petit galop, et lui a dit de plier ses béquilles dans les journaux et de les porter à Fourvière en ex-voto des deux mains. Car, a-t-il ajouté, ce n'est pas moi qui vous ai guéri, car je ne suis qu'un pêcheur. Je vaux moins que toi, et tu ne vaux déjà pas cher. Celui qui t'a guéri, c'est la mère du Christ, en qui tu as toujours eu confiance. Au cours des séances données aux 35 rue Tête d'Or, auxquelles assistaient chaque jour plus de 200 personnes, le jardinet était bien souvent envahi, ainsi que le trottoir desservant la porte d'entrée par des malades ou de simples curieux, attendant de pouvoir entrer dans la salle principale. Le nombre de guérisons miraculeuses réalisées en ce lieu fut tout simplement incalculable. Ainsi que Jean Bricot l'a écrit, « J'ai assisté là à de bien étranges séances de magnétisme occulte. Les guérisons opérées par le maître semblaient vraiment tenir du miracle. » Ses facultés de clairvoyance et de clairaudience, sa perception des maladies à distance étonnaient toujours, même ses élèves qui en pouvaient voir cependant de fréquents exemples. Et que dire maintenant des cas de résurrection? Car il y en a eu aussi. Alors là, bon, on rentre dans un autre domaine. Au moins 2 réalisés par le maître dont nous avons eu connaissance et peut-être d'autres qui sont restés à jamais dans l'ombre. Le premier cas avéré, celui de Jean Chappas, qui deviendra d'ailleurs le disciple bien-aimé du maître. En 1870, un jeune garçon, âgé de 7 ans, meurt dans un petit immeuble lyonnais. Les médecins, appelés à son chevet, diagnostiquent une méningite foudroyante avant de constater le décès. Il s'est déjà écoulé plusieurs heures depuis la mort de l'enfant lorsque maître Philippe, alerté par un voisin, arrive jusqu'à la demeure endeuillée. Dans la cour, les menuisiers s'affairent à fabriquer un petit cercueil. Maître Philippe, tout juste âgé de 21 ans au moment des faits, présente ses condoléances aux parents qui le conduisent dans la chambre mortuaire. À noter que M. Chappas connaissait déjà le maître pour avoir eu recours à ses services. Puis se tournant vers Mme Chappas, Maître Philippe lui demande « Me donnes-tu ton fils ?» Sans bien comprendre pourquoi une telle question lui est posée, Madame Chappas répond instinctivement « Oui ». S'approchant alors de l'enfant décédé, Maître Philippe prononce ces paroles « Jean, je te rends ton âme ». Et à ce moment précis, le visage de l'enfant, qui était d'un blanc cadavérique, reprend soudain des couleurs. Le petit Jean ouvre les yeux et sourit à Maître Philippe. Inutile de décrire l'émotion qui submergea les personnes présentes dans la pièce. Bien plus tard, en 1899, Jean Chappas mourut une seconde fois, emporté par la fièvre typhoïde. Le maître le ramena encore à la vie après que l'acte de décès eut été établi. Ce qui fit dire au caporal, surnom qu'avait donné maître Philippe à Jean Chappas, « Je suis un mort en congé ». Dès 1895, maître Philippe présenta Jean Chappas comme son successeur. Et il est vrai que le caporal obtint lui aussi par la prière de nombreuses guérisons. Comme il poursuivit également les œuvres de charité du maître après la disparition de celui-ci. Le deuxième individu qui fut ressuscité par maître Philippe était un jeune homme, fils d'un épicier installé dans un quartier populaire. Son père, qui ne pouvait se résoudre au décès de cet être chéri, s'en alla trouver maître Philippe qui lui promit de passer chez lui. Peu de temps après, le maître se présenta au domicile du défunt. Sachant que l'épicier vendait à crédit, il lui demanda si beaucoup de personnes lui devaient de l'argent. Le père éploré répondit de façon affirmative, tout en montrant au maître un gros cahier sur lequel ne figurait que bien peu d'acomptes. À la question du maître de savoir s'il souhaitait réclamer son dû, l'épicier répondit que non, et joignant le geste à la parole, il jeta son cahier dans le feu de la cheminée. Dès lors, le maître se rendit dans la chambre du trépassé et l'appela par son prénom. Le lecteur aura deviné la suite. Vous avez deviné la suite. le fils regretté revint aussitôt à la vie. Extraordinaire. Outre ses dons de guérisseur, Maître Philippe était capable de bien d'autres prodiges, faisant de lui un véritable thaumaturge. Il était, par exemple, capable de lire dans ses contemporains comme dans un livre ouvert, de sorte que personne ne pouvait avoir le moindre secret pour lui, et sa vision s'étendant jusqu'aux vies antérieures. On fait une petite pause musicale et on se retrouve pour la suite de cette vie extraordinaire.
Thank you.
Deuxième partie de la vie extraordinaire de Maître Philippe, thaumaturge lyonnais. Donc nous venons de le dire, personne ne pouvait avoir le moindre secret pour lui, et sa vision s'étendait jusqu'aux vies antérieures. Ainsi, lors d'une séance, un petit malin, qui se moquait ouvertement des personnes présentes, en disant qu'il fallait être bien bête pour croire à toutes ces sottises, fut interpellé par Maître Philippe. Maître Philippe s'étant approché du fanfaron, il le pria de l'accompagner dans la petite pièce voisine. À peine avait-il refermé la porte derrière lui que Maître Philippe s'adressa au fier Abrant en ces termes « Savez-vous ce que vous faisiez le 28 juillet 1884 à 3h du soir ? Vous étrangliez une femme. Ne craignez rien, moi seul vous ai vu. Si vous voulez demander pardon au ciel tout de suite, on ne vous trouvera pas. » L'homme tomba à genoux et implora le ciel de lui pardonner. Il sortit ensuite de la pièce en pleurs et plus jamais on ne le revit. Autre spécificité du maître, il était capable de commander aux éléments. Se trouvant un jour dans le jardinet du 35 rue Tête d'Or, à deviser avec son ami Papus, il fit tomber à la demande de ce dernier la foudre à leurs pieds. Plus tard, alors qu'il était invité du couple impérial en Russie et qu'il faisait une promenade en yacht en compagnie du tsar, il calma sur les instances de Nicolas II une tempête qui venait de se lever. Bon, dans une revue à Tsarskoye Selo, la résidence de la famille impériale russe, un ouragan de sable vint perturber la cérémonie. À la demande du grand-duc, Maître Philippe n'eut qu'un geste à faire pour arrêter le vent. Selon le docteur Lalande, gendre du maître et témoin des faits, les arbres restèrent courbés pendant quelques secondes par le vent qui venait de cesser. À la Brelle, où Maître Philippe aimait à recevoir ses amis, une réunion eut lieu pendant un après-midi d'été particulièrement chaude. Un convive ayant fait remarquer qu'une bonne pluie ferait du bien, Maître Philippe rétorqua qu'il serait dommage qu'il pleuve dimanche, jour de repos et de promenade pour beaucoup de personnes. Toutefois, Maître Philippe consentit à ce que la pluie tombe juste autour du petit groupe rassemblé à la Brelle. L'atmosphère s'en trouva rafraîchie et pas une seule goutte d'eau n'atteignit le moindre invité. Toujours à la Brelle, Maître Philippe se trouvait dans le salon du Clos Landard lorsque sa belle-mère eut la mauvaise idée de lui faire des reproches sur sa conduite. Au lieu de dilapider la fortune familiale au profit des pauvres, elle aurait bien entendu préféré qu'il gère cet argent comme un capitaine d'industrie et qu'il commence tout d'abord par faire payer ses consultations. En guise de réponse, Maître Philippe, doué également de pouvoirs touchants à la télékinésie, fit sortir tous les meubles dans le jardin, meubles auxquels sa belle-mère tenait tout particulièrement. Une fois dehors, une pluie torrentielle s'abattit sur ces objets précieux aux grandes dames de belle-maman. Mais lorsque les meubles furent rentrés, on put constater qu'aucune goutte de pluie ne les avait abîmés. Un jour qu'il se promenait sur les quais de Lyon, en compagnie de Jean Chapas, Maître Philippe avisa deux gendarmes qui amenaient un déserteur. Après leur avoir demandé poliment de relâcher leur prisonnier, ce que les gendarmes refusèrent bien évidemment de faire, Maître Philippe leur désigna un arbre tout proche et leur dit « Mais voilà votre prisonnier, tenez-le donc !» Et l'incroyable se produisit. Les gendarmes allèrent ceinturer l'arbre et restèrent dans cette position pendant une heure jusqu'à ce qu'ils se réveillent devant une foule hilare. Georges Lucas se serait-il inspiré de Maître Philippe pour créer son fameux Maître Jedi doté d'un pouvoir de persuasion irrésistible? Nous pourrions citer presque indéfiniment d'autres exemples mettant en scène les incroyables pouvoirs de Maître Philippe comme la faculté qu'il avait de se rendre invisible ou encore cette science infuse qu'il habitait. À ce sujet, et ainsi que se l'est rappelé Paul Sédir, de son vrai nom Yvon Leloup, ésotériste et mystique contemporain du maître, il disait ceci, « Ces simples enseignements cachaient à la grande surprise de quelques-uns une science très concrète et, pour ainsi dire, universelle. Cet homme, Maître Philippe, dépourvu de diplôme supérieur, mettait en défaut les spécialistes de tout ordre. Je l'ai entendu, par exemple, rappeler à des gens de loi tel arrêt oublié, éclaircir un texte à des paléographes, fournir un dispositif à des physiciens, indiquer à des botanistes le lieu d'une plante rarissime. Mais tout le bien que Maître Philippe apportait à ses semblables à travers les nombreuses guérisons qu'il opérait ne lui suffisait apparemment pas, puisque ce saint homme consacrait une autre partie de son temps à venir en aide aux miséreux. Celui que les Lyonnais avaient baptisé du nom de Père des pauvres n'hésitait pas, en effet, à se balader dans des faubourgs populeux de manière à y apporter un peu de bonheur sous forme de monnaie sonnante et trébuchante. Mère de famille dans le besoin et autres orphelins guettaient son passage, car ils savaient que le maître ne passerait pas devant eux sans leur donner quelques pièces. Et combien de ménages sans le sou devaient-ils leur hébergement à la générosité de Maître Philippe ? Après sa mort, on découvrit qu'il ne payait pas moins de 52 loyers, ce qui correspondait à une somme annuelle de 40 000 francs de l'époque, ce qui était une belle somme. Les plus malheureux pouvaient également espérer trouver un abri momentané dans une petite chambre qu'il avait conservée place Croix-Paquet. Enfin, d'autres pauvres, vieillards, veuves et filles-mères, bénéficiaient également de ses largesses. Et voici une très belle histoire d'ailleurs pour illustrer notre propos, si tant est-il qu'il en ait besoin. Une nuit, revenant de son laboratoire de la rue du Bœuf, Maître Philippe traversait le pont Morin en compagnie d'Alfred Hell, futur biographe du maître, lorsqu'il demanda à son ami de l'attendre quelques instants. Le maître alluma sa pipe, puis descendit l'escalier qui menait jusqu'à la berge du Rhône. Là se trouvaient trois hommes qui préparaient un mauvais coup. Maître Philippe s'avança vers eux et leur fit admettre leurs mauvaises intentions. Voulant tout d'abord nier, ils finirent par avouer, après que le maître ait désigné lequel d'entre eux avait eu l'idée du forfait. Pour leur défense, ils argumentèrent qu'ils étaient sans travail, accablés par la misère. Sachant qu'il s'agissait là de la vérité, Maître Philippe leur donna rendez-vous pour le lendemain. Au jour convenu, il leur remit une forte somme, argent que le maître avait dû emprunter, de manière à ce qu'ils puissent ouvrir un commerce. Par la suite, jamais commerçants ne furent plus honnêtes que nos trois larrons. Un peu plus haut, nous évoquions le laboratoire du maître. En fait, il en eut trois. Un à la propriété de la Brelle, à côté de la maison d'habitation, un place Colbert à Lyon, et le troisième, le plus important, au numéro 6 de la rue du Bœuf, toujours dans la cité lyonnaise. Et dans ces laboratoires, Maître Philippe se livrait à des expériences alchimiques et surtout mettait au point des médicaments, toujours dans l'unique but de venir en aide à son prochain. Du reste, il ne tirait aucun profit de ses inventions et demandait à d'autres de les exploiter. Parmi les médicaments dus au travail nocturne du maître, il ne travaillait que la nuit, d'une part à cause de son emploi du temps trop chargé, et d'autre part parce qu'il pensait que l'obscurité était plus propice à la densification de l'esprit dans la matière. Nous citerons les lyosines, sérum utilisé contre la syphilis, et permettant également de raviver la force vitale de malades. L'huile vipérine, employée pour soigner les cancers et les tumeurs à leur début, ou encore l'élixir rubatier, puissant dépuratif. Maître Philippe, qui aurait dû être honoré dans son propre pays, connu au contraire des persécutions, de toutes sortes de persécutions sur lesquelles nous reviendrons un peu plus loin. A contrario, plusieurs grands monarques européens lui accordèrent leur amitié, et en particulier le tsar de toutes les Russies. Avant de rencontrer Maître Philippe, Nicolas II fit d'abord la connaissance de Gérard Ancos, dit Papus, médecin et mage de grande renommée, fondateur de l'ordre martiniste. Étant donné que le martinisme avait pénétré jusqu'à l'intérieur même de la cour de Russie, il était inévitable que les deux hommes se rencontrent. Papus, fort apprécié par l'aristocratie russe, et bien entendu par la famille impériale elle-même, fit trois voyages en Russie. C'est au cours de l'un d'eux, et lors d'une conférence, qu'il fut amené à parler de son maître spirituel, Maître Philippe. Bien que le nom de ce dernier ne fût jamais prononcé, on ne tarda pas à découvrir de qui il s'agissait. Deux dames russes de la cour, impatientes de rencontrer M. Philippe, le maître des maîtres, se rendirent à Lyon, où elles purent voir le thaumaturge. De retour en Russie, elles ne tarirent pas d'éloge sur le maître, au point que le grand-duc Vladimir décida, lui aussi, de faire le voyage jusqu'à Lyon. Impressionné par Maître Philippe, il invita ce dernier à venir le voir en Russie. Maître Philippe arriva à ce pays le 29 décembre 1900 pour y rester pratiquement 2 mois. Même cause, mêmes effets, la réputation du maître en Russie alla grandissant au point d'atteindre le couple impérial. Par l'intermédiaire de la duchesse Militsa, le tsar fit savoir à Maître Philippe qu'il aimerait faire sa connaissance lors de sa prochaine venue en France. La rencontre eut lieu à Compiègne, comme nous l'avons vu plus haut, le 20 septembre 1901. Également tombés sous son charme, le tsar et la tsarine invitèrent Maître Philippe à effectuer un autre séjour en Russie. Souhaitant l'avoir à leur côté, ils firent préparer une maison pour le maître dans l'enceinte même de Tsarskoïe Selo, la résidence impériale. Et à la cour, Maître Philippe réalisa de nouvelles guérisons qui renforcèrent sa notoriété. Son influence devint telle que le tsar ne prenait plus aucune décision d'importance sans consulter le maître au préalable, ce qui ne manqua pas d'éveiller de fortes jalousies dans l'aristocratie russe. Même l'Église orthodoxe se mit à comploter contre Maître Philippe, ne supportant pas l'idée qu'un étranger puisse dicter sa conduite au tsar. L'orage grondait donc au-dessus de la tête du thaumaturge. En attendant, le tsar n'avait que de tendres attentions envers son nouvel ami. C'est ainsi qu'il demanda ce que le titre de médecin le fut accordé en Russie, ne pouvant l'obtenir des autorités françaises. Les ministres russes répondirent favorablement à la requête de leur tsar, mais à la condition toutefois que Maître Philippe passât un examen. De grands professeurs en médecine furent donc réunis en jury au palais impérial. Et devant ces personnages distingués, Maître Philippe demanda qu'on lui indiquât les numéros de lit de plusieurs malades soignés à l'hôpital de Saint-Pétersbourg. On lui en donna 6. Maître Philippe décrivit alors avec la plus grande exactitude le mal dont ses patients étaient atteints. Puis il déclara qu'ils étaient, dès à présent, tous guéris. Vérification faite, les savants médecins ne purent que constater la véracité des propos du maître. Les guérisons miraculeuses s'étant de même réalisées. Mais ensuite, ombre au tableau. En 1904, sa fille Victoire, qui a toujours été de santé fragile, voit la maladie l'accabler au point de l'entraîner vers le trépas. Son père, Maître Philippe, ne peut malheureusement rien pour elle, car il sait qu'il s'agit là d'un sacrifice consenti. La mort de sa fille née un 11 novembre, nous l'oublions pas, devant retarder l'échéance dramatique de la Première Guerre mondiale d'une dizaine d'années. Cependant, Maître Philippe est à la torture. Il souffre terriblement de ne pouvoir venir en aide à sa fille. Le 29 août 1904, son enfant chéri décède, le laissant dans une peine indescriptible. Il a beau essayer de ne rien laisser paraître, il avouera un jour à ses proches « Cette mort m'a crucifié vivant ». Cet événement aura été le coup de grâce pour son cœur trop tôt épuisé. Maître Philippe sait qu'il va mourir et annonce son prochain départ à son entourage. Il s'est réfugié au Clos Landard, qui ne quittera plus. Ses souffrances sont abominables, au point de l'empêcher de se coucher. Il occupe désormais continuellement un fauteuil installé dans sa chambre. Et le 2 août 1905, à 11h30 du matin, on entend un cri déchirant provenant de la chambre du maître. Madame Landard, sa belle-mère, se précipite, mais il est trop tard. Elle découvre Maître Philippe allongé sur le sol, après qu'il ait glissé de son siège, laissant échapper du sang par le nez et les oreilles. Tout est fini. Le maître, âgé de 56 ans, est retourné dans ce monde qu'il connaissait bien. Oh, qu'il connaissait d'ailleurs si bien, celui de l'au-delà. Merci pour votre écoute et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. I'm a living sunset, lightning in my bones. It pushed me to the edge, but my will is strong. 'Cause I believe in a better way.
Maintenant.